Votre invité ce matin est islamologue.
Et chercheur associé au fonds Paul Ricoeur, il publiait récemment des 1000 façons d'être juif ou musulman avec la rabbin Delphine Horviller. Bonjour Rachid Benzine.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce texte qui n'en finit pas de faire débat depuis sa publication dimanche dernier dans le journal Le Parisien. Ce manifeste contre un nouvel antisémitisme en France. Avant d'entrer dans le détail de ce texte, comment l'avez-vous reçu ?
J'ai reçu ce texte d'abord, je dirais d'abord de manière positive, parce que je me suis dit il y a quelque chose qui va relever de la complexité. Autant je comprends, je crois, le déni dans lequel la société française s'est installée par rapport à un certain type d'antisémitisme, autant la forme et l'accusation me semblaient contre-productives. La question, c'est quand on fait ce type d'appel, qu'est-ce que nous cherchons comme effet ? Et là, à mon avis, aujourd'hui, cet effet-là, c'est celui de la polarisation de la société. Or, on a besoin ensemble de construire ensemble. Et c'est pas en mettant, en stigmatisant une partie de la population qui a le sentiment d'être stigmatisée que l'on va réussir. Et je crois que face à ce nouvel antisémitisme qu'on pourra définir tout à l'heure peut-être, ce nouvel antisémitisme ne pourra pas être combattu sans les musulmans. Or, les musulmans sont des alliés face à cet antisémitisme.
Alors, l'islam, il en est question évidemment dans ce manifeste, et notamment parce que ce texte demande aux autorités religieuses musulmanes de décréter obsolètes les versets du Coran qui appellent au meurtre des juifs, des chrétiens et des incroyants.
Il y a une méconnaissance complète de la manière dont fonctionne l'islam. Tout d'abord, il n'y a pas d'autorité religieuse dans l'islam de France. Et l'islam sunnite n'a pas d'autorité religieuse qui serait reconnue par tout le monde. Ça, c'est la première des choses.
Donc, comparé à quelque chose comme Vatican II, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de Vatican.
Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de Vatican. Et ensuite, c'est l'enseignement de l'Église vis-à-vis des évangiles qui a été modifié. Non, pas du tout les textes. Et demander qu'on applique cela au texte, à mon avis, c'est contre-productif, parce que tout d'abord, c'est un texte qui est sacré pour les musulmans, et ensuite, ce texte, quand même, il a 15 siècles, à un moment, il faut faire un peu d'histoire, c'est important, je dirais, de resituer les éléments dans le contexte, et ensuite...
Et c'est ce que vous faites, vous, parce que vous approchez ces textes avec la dimension historique, sociologique, la remise en contexte. Qu'est-ce qu'on trouve sur les juifs dans le Coran ?
Tout d'abord, il s'agit de bien comprendre, ce sont d'abord des juifs situés historiquement dans la péninsule de l'Arabie du 7e siècle, à Médine. Et on trouve un discours qui relève d'abord de la polémique, de la malédiction, mais un discours qu'on a retrouvé déjà vis-à-vis, du christianisme, vis-à-vis du juif. Donc, on a ces polémiques-là, mais ce n'est pas de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est un terme qui est apparu à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, et donc on est finalement dans l'anachronisme. Et c'est pour ça que...
Anachronisme de considérer la rivalité avec des tribus juives à Médine, en 7e siècle après Jésus-Christ, comme ayant des résonances contemporaines aujourd'hui.
Absolument. C'est un texte qui s'adresse d'abord à l'imaginaire au XVIIe siècle, à des gens qui sont situés historiquement. Et donc les textes religieux ne sont pas programmatiques. Ce sont les êtres humains qui aujourd'hui mobilisent les textes pour appuyer leur idéologie. Et donc on est dans une lecture anachronique à la fois de ce que demande, ce manifeste, mais en même temps, les musulmans fondamentalistes procèdent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est ça le paradoxe, Rachid Benzine.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a un déficit d'histoire et un excès de mémoire où les textes sont des réservoirs où chacun va puiser ce qu'il a envie. Mais ce ne sont que des projections, de notre temps présent. C'est pour ça qu'il est important, de faire de l'histoire, parce que ça permet cette distance critique. Et donc, au lieu de demander ça sur le Coran, on devrait demander davantage une lecture critique, un enseignement critique de tous les textes religieux, et notamment la place de l'histoire dans le fonctionnement de ces textes.
Qu'on comprenne bien, expurger le Coran, ça n'a pas de sens pour vous, en tout cas c'est inutile.
C'est inutile, mais ça participe de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on a un problème avec notre héritage. On veut débaptiser certaines rues, on veut changer certains opéras, notamment je pense à Carmen de Bizet. Je pense que l'héritage, il faut le prendre à bras le corps et être dans ce que Derrida appelait une fidélité infidèle, c'est-à-dire faire une critique de nos textes religieux pour les emmener ailleurs.
Et faire un travail d'interprétation, ça veut dire que les fidèles sont responsables de la lecture qu'ils font du Coran en particulier.
Absolument, chaque personne qui lit le Coran est responsable de sa lecture. Donc on doit responsabiliser les responsables religieux, entre guillemets, et on doit responsabiliser les lecteurs devant les lectures qu'ils font, parce que les lectures peuvent être incendiaires comme elles peuvent être porteuses de paix.
Vous faites partie de ceux qu'on qualifie de nouveaux penseurs de l'islam. Je disais que vous apparteniez au fond Paul Ricoeur, et c'est évidemment l'un des penseurs de l'interprétation Paul Ricoeur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui est séduisant dans les lectures les plus dures, les plus radicales, les plus intégristes des textes sacrés ?
Oui, je comprends, c'est-à-dire que face à un avenir qui devient de plus en plus incertain, on se réfugie dans le passé. Et on a l'impression que face à ce monde qui est de plus en plus complexe, les gens ont besoin finalement de réponses qui sont assez simples. Et je dis souvent, par par exemple, que le salafisme est un kit de survie en contexte de postmodernité. Parce qu'il apporte qu'il apporte des réponses hyper simples, c'est-à-dire que la solution est dans le passé. Et donc il suffit de revenir au passé. Et ça c'est une fiction parce que le passé n'a jamais été ce qu'il prétend être. C'est comme les gens qui disent avant c'était mieux. Donc on est dans une espèce de nostalgie parce qu'on est incapable de prendre en compte le présent et les enjeux et les problématiques.
Comment convaincre notamment les fidèles, ceux qui sont séduits par l'intégrisme, de prendre du recul par rapport au texte sacré. On vous dira le Coran c'est une parole révélée. Elle a été révélée par Dieu à son prophète. Il n'y a pas distance à prendre.
Bah tout simplement, ça veut dire que si on dit cela, ça veut dire qu'on met de côté 15 siècles d'histoire de l'islam, 15 siècles de production théologique, 15 siècles de production exégétique, 15 siècles de production notamment en termes de sophisme, et qu'un texte n'existe pas sans la tradition qui le porte. Et je pense que ceux qui disent cela sont infidèles à la véritable tradition. Et même si c'est un texte révélé, il n'empêche qu'il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine, et que cette parole humaine s'inscrit dans le temps des hommes. Et donc elle s'adresse à l'imaginaire des gens. C'est-à-dire que ce texte, je le dis souvent à mes étudiants, avant de s'adresser à vous, il s'est adressé à des gens qui ne sont pas vous, à une société qui n'est pas la vôtre, et à des enjeux qui ne sont pas les vôtres. Donc, par principe d'humilité, vous devez essayer d'étudier la société qui a derrière le texte, la géographie, le climat, la faune, la flore, les structures de relations de parenté, de pouvoir dans cette société qui est d'abord avant tout une société tribale. Et donc, ne pas imposer notre propre imaginaire et nos propres questionnements sur le texte. C'est comme les gens qui veulent voir le féminisme dans le Coran. C'est anachronique. C'est comme les gens qui veulent, en disant que le Coran est misogyne. Ben, le Coran, il s'inscrit dans une société patriarcale. Et donc, il ne faut pas plaquer nos valeurs modernes sur un texte ancien.
Et ça n'empêche pas de mener, par exemple, le combat féministe aujourd'hui.
Absolument, parce que tous les grands textes voyagent et ils peuvent signifier autre chose. Et donc, on peut comprendre que le féminisme va s'appuyer sur lecture historique pour dire, voilà, aujourd'hui, le patriarcat n'est plus la valeur normative et donc nous devons combattre le patriarcat.
Il y a la question des imaginaires, vous en parliez à l'instant. Une phrase comme Allahu Akbar, qui est une phrase neutre, on va dire, Dieu est grand, c'est devenu quelque chose qui fait peur aujourd'hui, et notamment parce qu'elle est prononcée, mise en contexte par des gens qui, au moment de tuer, prononcent ces mots-là. Comment est-ce qu'on peut résister à la façon dont est reçue, travailler, perçu une phrase pareille?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malentendus et de malentendants entre les musulmans et les non-musulmans. Pour le musulman, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est plus grand, c'est-à-dire au-delà de nos représentations humaines. Donc c'est un appel à l'humilité. Et le grand problème, c'est quand vous avez toute la symbolique musulmane qui va être utilisée par ces djihadistes pour commettre des meurtres. Et donc il y a un mésusage, et donc toute la question, c'est comment nous allons retrouver cette symbolique qui est quand même là pendant 15 siècles et qui est quand même quelque part la fierté des musulmans. C'est comme le terme jihad. Pour beaucoup de musulmans, c'est d'abord cette idée de lutter contre ces mauvais penchants. Et aujourd'hui, ce terme-là, chez Daesh, ça veut dire l'idée de la guerre et l'idée d'une guerre sainte.
Et c'est même un prénom qui est aujourd'hui très très difficile à porter, même en terre d'islam en l'occurrence, et particulièrement quand on imagine voyager. Beaucoup de questions à vous poser. Vous avez confiance malgré tout dans cette parole éclairée, qu'elle puisse porter, qu'elle puisse être efficace, Rachid Benzine, d'un mot?
En tout cas, moi je suis confiant, et même ce manifeste va nous aider à poser les bonnes problématiques. La question, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble entre juifs, musulmans, et aussi on a besoin des autres, parce que la société, il n'y a pas que des juifs et des musulmans dans la société française.
Merci infiniment Rachid Benzine. On va rester sur cette question des 1000 façons d'être juif ou musulman avec la Delphine, avec la rabbin Delphine Horviller. C'est publié aux éditions du Seuil. Et puis finalement, il y a quoi dans le Coran? C'est dans la boîte à Pandore.
Merci à tous les deux.